11h midi, Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
Bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous restons en bonne compagnie en la personne de Yanine Janssen, extraordinaire violoniste que nous évoquions hier. Cette quadra d'une grande beauté, ce qui ne gâche rien, porte très haut l'art du violon au féminin. Comme je vous le disais hier, Yanine Janssen est née dans une famille de musiciens le 7 janvier 1978 aux Pays-Bas, plus précisément à Soest, près d'Utrecht, où son père, qui maîtrise également l'art du clavecin, du piano et de la harpe, est l'organiste en titre de la cathédrale Saint-Martin. C'est au conservatoire d'Utrecht que Yanine Janssen effectue l'essentiel de sa formation après avoir suivi l'enseignement d'une célèbre pédagogue du violon néerlandaise qui l'initiera aussitôt à la pratique de la musique de chambre. Ce fut une éducation musicale idéale, associant cours particuliers, répétitions d'ensemble et concerts le week-end, se souvient Yanine Janssen, qui précise « Nous devions toujours jouer par cœur et alternant souvent du premier au second violon et même à l'alto ». Il arrive encore à Yanine Janssen de jouer de l'alto, comme lors de cette ravissante romance de Max Bruch.
Thank you.
Max Bruch, romance pour alto et orchestre, opus 85, interprété en 2005 par Janine Janssen à l'alto et l'orchestre du Gewandhaus de Leipzig que dirigeait Ricardo Chailly. Au conservatoire d'Utrecht, qui est également sa ville de résidence et depuis 2003 celle du festival de musique de chambre qu'elle a créé, Janine Janssen a étudié notamment auprès de Philipp Hirschhorn, qui l'a profondément marqué. C'était un homme merveilleux, à la personnalité très forte et à la sonorité inoubliable. Quiconque a eu le privilège de jouer devant lui s'en est trouvé obligatoirement transformé, tant sa passion était communicative. Il avait coutume de nous dire que le compositeur avait transcrit ses sentiments et que c'était à nous, interprètes, de leur donner vie. Il m'a appris bien sûr comment exprimer mes propres idées. Hélas, peu de temps après mon arrivée, il est tombé malade. Sa disparition à 50 ans nous a tous bouleversés. Cela m'a forcé très tôt à travailler de manière autonome. Janine Janssen a ensuite étudié auprès du violoniste russe Boris Belkin. Avec lui, je me suis concentrée sur les principaux concertos du répertoire et ce fut très enrichissant d'apprendre de quelqu'un qui avait une telle expérience de la scène et donc du contrôle de l'émotion. Plutôt que de se présenter à des concours, la plus horrible aventure de ma vie, rappelle-t-elle, les concours sont d'ailleurs le dernier endroit où l'on se sent libre de faire de la musique. Janine Janssen a très intelligemment préféré fréquenter des masterclass animés par des musiciens tels que la violoniste Anna Shumashenko, qui a compté Elisa Batiashvili et Julia Fischer parmi ses élèves, Menhaen Pressler, l'immuable pianiste du Beaux-Arts Trio, récemment disparu à 99 ans, ou encore, bien sûr, Mislav Rostropovitch. Janine Janssen a immédiatement été remarquée dès ses débuts publics en 1997. Elle avait alors 19 ans, et se produisait en soliste avec l'Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam, l'institution la plus prestigieuse des Pays-Bas, qu'il a aussitôt réinvité. Toutefois, comme je vous le disais hier, Janine Janssen n'aime rien tant que les musiques de chambre. Il suffit de l'entendre interpréter le final du quintet pour clarinette et cordes de Brahms pour le comprendre. L'un des ultimes chefs-d'œuvre de musique de chambre signé Johannes Brahms, son quintette avec clarinette opus 115, dont nous écoutions le dernier mouvement, interprété en 2013 par Martin Frost à la clarinette, entouré des violonistes Yannine Janssen et Boris Brovstin, de Maxime Rizanov à l'alto et de Torlef Tedehen au violoncelle. Dès l'an 2000, Yannine Janssen a pu disposer d'un remarquable violon Stradivarius, le Barrère de 1727, prêté par la Fondation Élise Mathilde par l'intermédiaire de la Stradivari Society de Chicago. Depuis, diverses institutions lui prêtent des instruments de collection, mais ce n'a pas toujours été le cas. Avant que l'on me prête ce Stradivarius, je ne possédais pas moi-même de violon, et j'ai dû restituer celui avec lequel je jouais à l'époque. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans instrument. C'était affreux. D'autant que je devais jouer quelques jours plus tard le concerto pour violon de Samuel Barber. Je m'en suis sortie grâce à un confrère qui m'a prêté son instrument. Mais il me fallait un violon. Cela s'est su et l'on m'a proposé ce magnifique Stradivarius qui m'a tout de suite plu. Je possédais déjà un archet, un ancien archet français. Et un archet de bonne qualité, cela fait toute la différence. Peut-être grâce ou à cause de cela, Yannine Janssen a réalisé fin 2020 un disque très original. Ayant désormais accès aux meilleurs violons du monde, elle s'est amusée à jouer avec 12 des plus illustres instruments fabriqués par le légendaire luthier de Crémone, Antonio Stradivari, dit Stradivarius, en affectant à chacun de ses violons d'exception une pièce. De ce disque d'Eka sobrement intitulé 12 Stradivari, écoutons la pièce en forme de habanera de Maurice Ravel. Yannine Janssen la joue avec un Stradivarius de 1722, puis interprète une danse espagnole de Manuel de Falla avec cette fois un Strad de 1734.
Thank you.
Deux des 12 Stradivarius mis à l'honneur par Janine Janssen, le premier pour la pièce en forme de habanera de Maurice Ravel, est un Stradivarius de 1722, baptisé De Chapenay, du nom de l'un de ses illustres propriétaires. La danse espagnole tirée de la vie brève de Manuel de Falla, arrangée par Fritz Kressler, était-elle servie par le Stradivarius de 1734, Kressler, Lord Amherst of Hackney? Janine Janssen était accompagnée par le chef Antonio Papano au piano. Vous l'aurez compris, notre violoniste néerlandaise accorde une importance majeure à l'instrument violon, tout comme à son archet. Mais en réalité, à ses yeux, la différence la plus notable, du moins pour le répertoire baroque, tient au style d'interprétation. Soit il est strictement historique, soit il privilégie l'expression. Écoutons sa version des 4 saisons de Vivaldi, dont elle préserve le caractère intimiste, autant amical que familial, mais patience, ce sera juste après la pub.
Notre première rencontre, Manhattan, club de jazz. Je jouais sur mon piano nacré et c'est là que tu t'es mise à chanter.
Allez, dis-leur, c'était sur 10 ans demain.
Oui, j'avoue, j'avais vu sur ton profil que t'étais fan de jazz.
Il arrive un moment où on arrête de se faire des films sur les rencontres. Provoquez le destin sur 10 ans demain et rencontrez des célibataires de plus de 50 ans.
Va où la rivière te porte, c'est la seule façon de vivre. Quand Victoria rencontre Will, sa vie s'illumine. Mais leur amour est impossible et Victoria se retrouve seule face aux épreuves. Portée par ses souvenirs, enveloppée par les montagnes de l'Ouest américain, elle construit sa liberté et son bonheur. « Va où la rivière te porte » est un roman émouvant et lumineux qui vous envoûtera. « Va où la rivière te porte » de Shelley Reid, le coup de foudre d'un million de lecteurs. À découvrir en librairie aux éditions Robert Laffont.
Les traders sont comme des chefs d'orchestre. Ils dirigent un ensemble d'instruments. Pour garder la maîtrise, il leur faut de bons outils. Avec eToro, les traders composent avec le marché grâce au calendrier économique. Ils restent en phase avec chaque instrument grâce au graphique TradingView. L'excellence exige les meilleurs outils. Téléchargez eToro aujourd'hui et commencez à trader plus intelligemment. eToro est une plateforme d'investissement multi-actif. Tout investissement comporte des risques de perte en capital total ou partiel. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Retrouvez Éric Pincas, rédacteur en chef du magazine Historia.
Il y a 80 ans, le général de Gaulle accordait le droit de vote aux femmes. Depuis les pionnières de la Révolution française, elles se sont battues pour devenir des citoyennes de plein droit. Nous vous racontons leur combat pour, enfin, faire entendre leur voix.
Votre magazine Historia, nouvelle formule, à découvrir chaque mois chez votre marchand de journaux.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 31 mars si à Cordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Cet été, offrez-vous un nouveau regard sur la Norvège. Avec Hurtigruten, partez encore plus loin, à la découverte d'un sanctuaire sauvage peuplé de phoques, de morses et de rennes où le soleil ne se couche jamais. Bienvenue au Spitzberg. À bord du Spitzberg Express, savourez chaque escale. Des sublimes fjords norvégiens aux majestueux glaciers de l'Arctique. Économisez jusqu'à 25% avant le 30 avril en réservant votre croisière sur hurtigruten.fr. Offre soumise à condition. Hurtigruten, entrez dans la légende norvégienne.
Restez branchés sur Femmes Majeures, on se retrouve dans quelques instants.
À 28 ans, Alexis voulait acheter son premier appartement. Mais il lui manquait un apport pour son crédit. Quant à ses parents, il n'avait pas assez pour l'aider. Alors au cabinet Bougardier, nous leur avons proposé un prêt hypothécaire garanti sur leur résidence principale. Les parents ont ainsi libéré de la trésorerie pour l'apport d'Alexis et leur fils est maintenant propriétaire. Comme pour Alexis, au cabinet Bougardier, nous aimons trouver la solution de financement à laquelle on ne pense pas toujours. Cabinet Bougardier, avenue de l'Opéra à Paris et sur bougardier.fr.
Jusqu'à midi, Femmes Majeures avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
L'été, issu des quatre saisons d'Antonio Vivaldi, l'un des premiers enregistrements de Janine Janssen en mai 2004, violon solo en compagnie d'un quintet à cordes constitué notamment à l'alto de Julian Rachlin, qui partageait alors sa vie, et du violoncelliste Martin Janssen, l'un de ses frères aînés, et pour le continuo, Elisabeth Kenny au théorbe, Jan Willem Janssen son père, tenant la partie d'orgue. Ayant grandi aux Pays-Bas, patrie des nouvelles approches d'interprétation historique baroque, Janine Janssen a très tôt rencontré des précurseurs en ce domaine comme Ton Koopman ou Frans Bruggen, tout en défendant ses propres conceptions, ce qui est suffisamment rare pour être noté. Très jeune, à l'église comme à la maison, j'ai entendu ses façons historiques de jouer. J'aime la liberté d'interprétation et l'improvisation dans les manières baroques, mais lorsque je joue Bach ou Vivaldi aujourd'hui, je ne joue pas baroque, même si je peux m'en inspirer. Je n'apprécie guère les visions dogmatiques. Plus que le style, c'est le naturel qui compte. L'interprétation doit venir du cœur. Avant d'enregistrer mon premier disque consacré à Bach, j'ai travaillé sur un violon baroque. J'ai beaucoup appris. Mais après un certain temps, je suis retournée à mon instrument habituel. J'aime l'approche stylistique, la manière de phraser, mais je suis convaincue que l'on peut obtenir la même chose sans forcément passer par un instrument d'époque. Je ne suis pas non plus sensible aux manières trop romantiques, sauf si bien sûr c'est joué avec cœur et conviction, car là, ça peut vraiment me toucher. C'est une fois encore avec son père, Jan Willem Janssen, au clavecin, que Janine Janssen a enregistré en 2013 ses sonates pour violon et clavier de Jean-Sébastien Bach, avec toujours cette même volonté de privilégier l'expression et le cœur plutôt que les dogmes historiques. Écoutons la quatrième de ses sonates en ut mineur.
Thank you.
Jean-Sébastien Bach, la sonate pour violon et clavier numéro 4 en ut mineur, interprétée en juin 2013 par Janine Janssen au violon et son père, Jan Willem Janssen, au clavecin. Faut-il en conclure que tout a toujours été facile pour Janine Janssen? En réalité, pas vraiment. Comme le rappelle le spécialiste du violon, Jean-Michel Molcou, notre surdoué, comme d'autres, a été très éprouvé par la cadence infernale des tournées et les exigences d'une carrière internationale. En 2010, elle a dû s'éloigner de la scène plusieurs mois. « Je m'étais perdue de vue », avoue-t-elle. « J'étais au bord de la rupture physique, mentale et artistique. On ne mesure pas à quel point c'est douloureux si l'on n'en a jamais fait l'expérience. Des gens bien intentionnés m'ont conseillé de souffler, de m'amuser, de sortir, de jouer du piano et même d'apprendre une nouvelle langue. » Mais il ne comprenait pas combien être constamment à la poursuite de soi-même peut vous consumer. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il était impératif que je trouve le juste équilibre entre ma vie sur scène et ma vie privée. Janine Janssen est sortie de ce qui s'apparente à un burn-out en bon anglais, plus forte et plus équilibrée que jamais. Elle a réduit le rythme de ses concerts et enregistrements et a surtout appris à se ménager des pauses, fructueuses, si l'on en juge par la qualité de ses interprétations qui la hissent parmi les plus grandes solistes du monde. En attendant, cap sur de nouveaux horizons avec Francis Drezel.